Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 24 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette nouvelle interview, je suis encore accompagné de Lynria.
Salut Cyrus.
Salut Lynria. Et nous accueillons Maximilien Dacunia de Libellude.
Bonjour.
Bonjour.
C'est pas encore moi.
Non, non.
Moi, j'aurais pas apprécié encore.
Ouais, on change les. Non, c'était pas du tout péjoratif. C'est plus pour dire c'est encore nous. C'est encore nous les meilleurs.
Parce qu'on a fait l'ouverture et on fait aussi la fermeture. Ça, au moins. Ouais.
Et puis les autres équipes étaient un peu mixées et nous, en fait, on est toujours tombés ensemble. Voilà.
Le duo de choc.
C'est ça.
J'ai de la chance.
C'est, carrément. Alors, on va démarrer le petit fil rouge qu'on fait à tous nos invités.
D'accord.
Pour toi, Maximilien, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma ?
Eh ben, jeu, forcément.
Plutôt bière ou champagne ?
Champagne, moi, je préfère.
Enfin, tant qu'à faire. Plutôt camping ou Martinez ?
Aucun des deux, malheureusement.
Mais tu préférerais le Martinez.
Martinez.
Ok. Plutôt off ou dodo ?
Soirée.
Ok. Soirée autre, quoi. Soirée parallèle. Salon ou festival ?
Moi, c'est plutôt salon.
Et plutôt pro ou perso ?
Pro.
Ouais. T'aimerais bien pouvoir jouer un peu ?
J'aimerais un petit peu, oui. J'en profite le soir à l'hôtel de temps en temps.
Ouais, okay, d'accord. Écoute, on va parler de Libellude alors, je pense. Hein ?
Oui.
Qu'est-ce que t'en dis ?
Ça me tombe bien.
Ça tombe bien. Tu as du mal à parler d'autre chose.
Tu te sens pertinent.
Je peux parler de moi, mais c'est pas très intéressant.
Dis-nous quand même ce que tu fais chez Libellude.
Je suis le chargé de communication.
Ah bah, ça tombe bien alors.
Donc voilà, le nouveau chargé de communication chez Libellude depuis juin. Et je m'occupe de toute la communication sur les réseaux sociaux et avec les partenaires à l'étranger.
D'accord.
Relations presse, etc.
Bien, nous allons communiquer ensemble.
Communiquons. Ça tombe bien, les jeux que nous avons, il y en a pas mal avec la communication.
C'est ça. Bah, moi, je vais commencer par te féliciter aussi, toi et l'équipe d'ailleurs, mais vous êtes quand même des habitués des As d'Or depuis une bonne dizaine d'années chez Libellude. On va les citer. Donc, Dixit, qui a gagné en 2009, Looney Quest, qui a gagné le prix enfant en 2015, et Mysterium en 2016. Et encore là, je ne dis que les gagnants, je ne compte pas les nominés qui étaient. Il me semble qu'il y avait Dice Forge l'année dernière et Shadows Amsterdam cette année. Est-ce que ces titres d'As d'Or, ça vous apporte finalement de la notoriété ?
Ça apporte de la notoriété, ça récompense le travail de tout le monde, de toute l'équipe, parce qu'un As d'Or, ça représente, forcément, il y a le jeu, il y a l'auteur, mais il y a aussi les graphistes, les game designers, la communication, même si j'y étais pas encore, mais le travail de Paul sur place, l'équipe et même la comptable, Pascal, par exemple. Tout le monde participe à ce développement de jeu, au travail qui est fourni, à l'ambiance, à la bonne ambiance, très bonne ambiance. Et du coup, ces récompenses, c'est les récompenses d'un jury de professionnels qui apportent, on va dire, une certaine reconnaissance du travail de toute l'équipe. Donc c'est toujours un très grand plaisir.
Et est-ce que ça aide à booster les ventes aussi, par exemple, quand on reçoit un prix comme ça ?
Je ne pourrais pas répondre à cette question.
Ah,
non pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je n'ai pas l'exactitude. On sait très bien que le Spiel booste les ventes. On sait que l'As d'Or commence à avoir une certaine notoriété,
mais
effectivement.
Mais on n'a pas encore assez de recul.
Et je pense que ça y joue forcément, si. Là, ne serait-ce que au festival, énormément, ne serait-ce que la nomination. Ça permet d'avoir de la bande passante, des gens qui s'arrêtent pour tester le jeu qui a été nommé à l'As d'Or.
Pour le connaître, en fait.
Tout à fait, pour le découvrir.
Ouais, ça amène au moins une certaine visibilité, quoi.
Ça, une certaine visibilité sur le salon, et après, en boutique, c'est toujours un argument supplémentaire, puisqu'on l'utilise, et forcément, il est affiché sur les boîtes, donc c'est une chose que les boutiques vont aussi utiliser. En plus, pour Dixit, Mysterium, forcément... Ouais.
Est-ce que vous voyez aussi de la médiation, de la communication dans les médias un peu plus grand public, du fait que ce soit un prix...
Si. Bah là, il y a un travail énorme de la part de Nadine et de toute son équipe, qui ont travaillé pour développer la renommée de cet As d'Or auprès de la presse un peu plus grande. Donc si, effectivement, là, oui, évidemment, toute l'équipe a fait en sorte du As d'Or de développer ce symbole, ce logo.
On va peut-être parler du nominé de cette année qui, maintenant on le sait, on est dimanche, qui n'a malheureusement pas gagné le jeu de l'année 2019. À l'ère du succès des jeux d'enquête et de communication, ce qui est quand même, on va en parler, c'est un peu votre marque de fabrique chez Libellude.
Effectivement.
Est-ce que c'était une évidence de mélanger justement l'enquête, la communication et de se lancer du coup dans l'édition de ce jeu ?
Alors, je crois que Mathieu...
Le thème enquête pour le coup.
Oui, voilà, c'est ça.
le thème enquête. Non, non, le jeu, je pense que à l'origine, mais j'imagine que Mathieu a déjà dû en parler, à l'origine, Mathieu, il avait dans la tête, et il voulait un jeu, il avait réfléchi à un jeu d'interprétation d'image avec une notion de déplacement. Donc, l'enquête, le thème d'enquête est venu que plus tard. Mmh. Vraiment le début de ce jeu, c'est une communication, on va pouvoir se déplacer, et c'est pas simplement on va valider des étapes, mais on va vraiment cet aspect où on va associer communication par l'image et le déplacement pour un certain dynamisme, finalement avec le temps réel, une très bonne ambiance autour de la table.
C'est vrai,
ça marche très bien.
Moi j'ai une question, parce que le design de ce jeu me fait vraiment, mais terriblement penser au film d'animation Zootopie. Un peu de la thématique aussi, parce que, mais c'est vrai que les personnages, vraiment, en termes de coup de crayon, ils font passer. Et je voulais savoir s'il y avait eu une inspiration de dessin animé ou absolument pas, parce que ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais je voulais quand même poser la question.
Ah, c'est vrai que, pour avoir vu Zootopie, parce que j'ai un enfant de 4 ans et demi, mais déjà, elle le regarde juste parce que.
Ouais, j'ai pas d'enfant, mais je le regarde quand même.
Effectivement, c'est vrai que c'est assez flagrant, il y a une proximité.
Alors, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une inspiration directe, mais ce n'est pas un hasard. Oui, il y avait un côté où le jeu, on le veut familial, ouvert, et donc forcément, ces petites équipes de détectives. L'utilisation de personnages animaux.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, c'était voulu. Et donc, forcément, Zootopia, je pense bien que oui, dans la tête du directeur artistique de Libellude, Jérémy Couturier, et du studio M81, ce dessin animé était sûrement pas loin lors de la réalisation des croquis et des images.
Oui, parce que vraiment, ils ressemblent vraiment.
Tout le monde en parle.
Pas très pour très non plus, mais c'est rigolo parce que oui, ils se baladent dans la ville avec le petit scooter qui nous rappelle exactement celui du lapin. Enfin, bon, ceux qui n'ont pas vu le dessin animé vont se dire mais de quoi elle nous parle. Mais vraiment, d'ailleurs, je vous invite à le regarder, il est vraiment très chouette.
Oui.
Mais vraiment, ça s'y rapproche beaucoup.
Oui, oui. Ah bah, clairement, parce que de toute façon, le jeu est sur un style urbain. En plus, on a ce côté animaux-personnages. Ouais, donc, oui, forcément, oui, oui, c'est.
Et il n'y a pas eu l'idée d'aller chercher la licence ?
Là, non, je ne pense pas, non.
Non, c'est vrai ? Non, c'est pas du tout une idée qui trotte.
Il est assez récent aussi.
Je ne sais pas. Ouais, je dois avouer.
Ok, d'accord, c'est pas grave. c'est que ça l'est sûrement pas, alors.
En tout cas, c'est pas une idée actuelle, ça je peux le répondre. Après, est-ce qu'il y a eu la tentative ou non ? Ça, je ne sais pas. Mais,
et pas non plus à l'inverse, Disney qui serait venu frapper, enfin, Pixar, tu sais ?
Ouais, oui. c'est la même boîte en toute façon.
Mais c'est Disney derrière.
C'est bizarre.
Donc ça, qui serait venu taper à la porte et dire hey, donc.
Un peu quand même, non ? On va attendre après Cannes du coup.
Oh merde, pardon, je suis désolé.
On a dévoilé après le secret, excusez-nous. S'ils nous écoutent.
Personne de Disney n'écoute cette émission.
Avec le Festival de Cannes, ça pourrait peut-être avoir une certaine envergure et impact là-dessus.
Ouais, okay. Du coup, pas trop déçu d'avoir perdu sur l'As d'Or ?
On n'est jamais déçu puisque déjà on est. Enfin déjà il y a le fait d'être nominé, donc là déjà c'est une grande victoire. Ensuite, forcément, puisqu'il n'y a que 4 jeux nominés par rapport à toutes les sorties, forcément déjà on est déjà heureux de ce côté-là. Et après, forcément, un autre meilleur jeu est choisi ou un jeu qui a plu. Il n'y a pas de raison. Moi je pense qu'il n'y a aucune raison de déception, hein, ça c'est clair. Après on va pas être
il n'y avait pas une prime à la fin du mois pour, non.
on va raconter tous nos secrets, c'est ça.
Non, ça existe ce genre de truc,
c'est la proximité chez Proxy Jeux, donc
alors une prime à l'As d'Or, non, je ne pense pas, non. Mais par contre oui, une prime à la motivation, l'équipe, du travail réussi, oui, ouais. Forcément, ouais. Chez l'ULU on a de la chance d'avoir un patron philanthrope.
D'accord. Bon, on va revenir sur Libellude un peu plus en général. Hein. Ouais. Donc, effectivement, Shadows Amsterdam, on a pas mal parlé avec l'auteur qui est venu en interview, qui est passé ce matin avec notre équipe. Chez Libellude, vous avez, on voit quand même dans votre travail, dans vos jeux, qu'il y a vraiment un soin apporté très particulier, tout ce qui est illustration. J'imagine qu'il y a peut-être l'héritage de Dixit de ça.
Alors, on a l'héritage de Dixit forcément, puisque Libellude a été créé pour Dixit. Libellude a évolué grâce à Dixit. Et donc, l'image de Libellude, surtout à l'étranger, est vraiment rattachée à Dixit. Donc, forcément, à ce niveau-là, c'est devenu une marque de fabrique. Après, je pense aussi que cette attention et cette qualité portée aux images, à l'esthétisme, vient aussi d'une volonté de considérer le jeu de société comme un bien culturel. Il y a une union des éditeurs de jeux de société en France. Il y a différents groupes de développement et il y a un groupe qui est notamment lequel appartient Régis, qui est sur Régis le développement Bonissé, considéré. Régis Bonissé, pardon. Qui est responsable de l'IBU, de l'auteur de Dice Forge, de Seasons, de Lord of Xedit, anciennement Himalaya, et anciennement Marchand d'Empire, si je ne me trompe pas.
Ah oui.
Et donc du coup, d'essayer de promouvoir le jeu de société, non pas comme un bien de consommation, mais aussi comme un bien culturel, au même sens que la BD, que n'importe quel film de cinéma, puisque c'est un produit qui est travaillé dans son esthétisme, dans l'expérience de jeu, l'expérience autour, l'expérience sociale. Et il est clair que une belle boîte et du beau matériel participent à moi je trouve, à l'immersion et à la qualité de la partie.
Puis même au-delà des graphismes, je trouve que vous êtes même dans la thématique générale, dans les couleurs, et dans les mécaniques de communication à l'image, on est quand même pleinement là-dedans. Peut-être à part Dice Forge, qui est finalement un peu à part dans cette thématique-là, mais bon, Dixit, Mysterium, même Looney Quest avec le dessin, ça
oui.
reste...
Après, il y a Seasons, il y a Lord
of the Dead. Oui, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est encore...
On peut évidemment sortir d'autres jeux qui n'étaient pas, mais par exemple dans Seasons où il n'y a rien à voir avec l'image,
ouais.
on a quand même un très beau travail oui. réalisé par Nayad. Vrai. Donc là-dessus, oui, toujours une grande part à l'esthétisme. Moi, en plus, personnellement, je trouve que la boîte de jeu ou le matériel pour acheter un jeu, c'est quand même quelque chose de super important en tant que joueur, en tant que même, je pense, que non-joueur. Si on arrive devant une boîte où on a un très bel esthétisme qui va nous parler... des couleurs, un travail sur
l'harmonie.
C'est
déjà une bonne partie du chemin qui est faite hein, quand
oui,
tu vois la couverture en magasin. Quoi,
exactement.
Ouais. Tu parlais d'expérience sociale. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel j'ai la sensation que vous insistez pas mal chez Libellude.
Oui, l'expérience sociale est un des critères clés des jeux que l'on souhaite éditer. C'est qu'il faut que les joueurs alors là, Dixit était vraiment à fond là-dessus. C'est après une partie de Dixit, on a découvert un peu plus de l'autre. Donc ça, c'est clair. Après, on a sur Shadows and Terms, tous les jeux à interprétation d'image, Shadows and Terms, même si c'est plus une course, et ben on va découvrir et puis on va vivre tous ensemble notre équipe contre une autre équipe. On a l'ambiance qui est prise, on est pris là-dedans. Et puis après, ben, pourquoi t'as mis ça? Mais moi, je l'avais vu comme ça. Mais oui, mais t'as pas vu ça. Il y a plein de discussions qui en sortent de cette partie de jeu et du coup qui fait que voilà, on a passé un excellent moment et on l'a partagé, on l'a vécu ensemble. On n'a pas été... Donc oui, c'est quelque chose qui est très important et qui est promu par l'entreprise.
Ouais. L'interaction entre les joueurs
L'interaction... si on ne va pas déborder sur Dice Forge, mais... Parce que c'est ce que je répète pour l'extension. Maintenant, il y a plus d'interactions. Mais certains diront oui, Dice Forge, il n'y avait pas vraiment d'interaction.
C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'on y reviendra quand on en parlera. Mais l'extension corrige beaucoup de petits défauts qu'on aurait pu reprocher à Dice Forge.
Ça, c'était un beau travail du game design.
On a reproché à Dice Forge, on peut le dire.
Oui.
Pas qu'on aurait. On l'a reproché. Moi, le premier, très honnêtement.
Mais vraiment, l'extension est. On sent que les critiques ont été reçues et retravaillées du coup en fonction.
On écoute. On est à l'écoute forcément de notre public puisque de toute façon on leur doit tout donc du coup forcément oui on est là pour nous notre plaisir et de chacun même si par exemple moi j'ai pas trop participé c'est très agréable quand on présente le jeu et que les gens disent mais il est génial votre jeu tout à l'heure là il y a un gars qui faisait une partie et puis il a vu passer Régis et il s'est relevé l'auteur de Dice Forge et il s'est levé et il a dit oh, merci parce que qu'est-ce qu'il est bien Dice Forge et du coup on se dit juste ça c'est super agréable.
Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'apporte cette extension de Dice Forge.
Donc l'extension de Dice Forge Rebellion est une grosse extension puisque à l'origine Régis était content de Dice Forge et ne voulait pas forcément en faire un jeu avec plein d'extensions. Il voulait pas en faire avec plein d'extensions. Mais comme on l'a dit, il y a eu des retours des joueurs comme quoi on faisait un peu notre truc dans notre côté, donc c'est un peu dommage. Et d'autres qui disaient ça se termine un peu vite.
C'est vrai.
Les plus gros joueurs se disaient on reste un peu sur notre fin.
Ouais, il y a cette impression de on est en train de construire un moteur et en fait il démarre au dernier tour.
Voilà.
Et encore, si on ne sait pas trop mal démerder.
Du coup, le Régis et les game designers ont travaillé sur une extension qui répondait dans l'optique notamment de répondre à cette demande. Et il en est ressorti deux petites extensions ainsi qu'un nombre impressionnant de cartes supplémentaires.
Mmh. C'est quoi un nombre impressionnant? Parce que pour moi, un nombre impressionnant, c'est des millions, tu vois.
Bah, t'es un peu gourmand quand même. Tu as un joueur de Magic ou...
Faudrait une grosse boîte pour rentrer un million de cartes. Magic, ouais.
Donc non, là, on a plus d'une centaine de cartes. Ça représente à peu près 37. On a des cartes qui sont dédiées au module, en sachant qu'on a deux modules différents qu'on ne peut pas cumuler. C'est soit on joue avec l'un, soit on joue avec l'autre. Et on a aussi des sets de cartes supplémentaires que l'on peut jouer avec le jeu de base. Si, par exemple, on veut jouer avec de nouveaux joueurs. Ou que l'on va moduler, que l'on va assembler avec les différents modules. Si on veut parler un peu des modules, oui. Nous avons l'extension, enfin nous avons le module du labyrinthe de la déesse. La déesse nous ouvre son labyrinthe. Nous avons un petit golem qui va se déplacer pour nous dans ce labyrinthe pour récolter des ressources, des points de victoire et des effets, de nouveaux effets. Je commence avec un dé, une phase d'un dé qui me permet d'avancer mon golem d'une case à chaque fois que je fais cette phase. Et sur ce labyrinthe, il y a plusieurs chemins, des chemins plus rapides où il y aura moins de récompenses, mais j'aurai plus de chances d'arriver au terme de ce labyrinthe. Mmh. Et des chemins plus longs où là, je vais récolter beaucoup plus de ressources dans un chemin ou dans l'autre, plus de points de victoire. Mmh. Et donc, du coup, je vais avoir à choisir en fonction de cela. Les cartes qui sont rattachées à ce module vont me permettre de forger des phases de dés supplémentaires pour avancer davantage sur ce labyrinthe. Et je peux aussi acheter des cartes qui vont me permettre d'avancer de deux cases d'un coup, en sachant que je récolte à chaque case, mais que je vais aussi pouvoir reculer. Donc ça va me permettre de faire des combinaisons, par exemple prendre le chemin le plus rapide pour être le premier à arriver à une case où il y a un bonus d'être arrivé en premier, et après reculer pour choisir rentrer dans un chemin qui est un peu plus long, mais par exemple on va tomber peut-être sur une case où on volera deux points de victoire à chacun des autres joueurs.
Ça c'est bien, on peut enfin voler des trucs aux autres. Oui. On pouvait pas le faire avant.
Mais non, on va pouvoir, et on peut même faire en sorte
de leur donner des trucs avant.
Mais oui.
Avancer et reculer à foison sur cette case pour un peu agacer nos concurrents.
Mais quand on n'a pas de chance au dé, ça compense. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé hier. J'avais des jets de dés horribles. J'avais des trop bonnes faces, évidemment. Je ne tombais jamais sur les bonnes. Du coup, je suis allée piquer les ressources des autres. J'ai pas du tout honte.
C'est sûr que tu n'arrives pas à les avoir quand même. Tu vas aller chercher chez les autres.
Exactement.
Ouais, c'est beau.
C'est une expérience sociale, je disais. On est collectif.
Négatif, certes, mais social quand même.
Et okay, ouais. Donc du coup ce module va jouer un peu là-dessus. Donc là on est un peu plus dans la combinaison avec ce labyrinthe. On va essayer de jouer, on va essayer peut-être forger à fond notre dé là-dessus, mais en sachant qu'une fois qu'on arrive au bout de ce labyrinthe, on va peut-être avoir des phases de dés qui nous servent plus trop. Donc soit il va falloir les forger autrement, soit alors on va avoir des phases où des moments on va rien récolter. Donc il va falloir un peu doser cela. Le deuxième module qui est la révolte des titans. Les titans sont de retour et veulent récupérer leur place sur l'Olympe. Donc pour attirer les héros dans leur camp, ils ont ramené une nouvelle ressource qui est le fragment originel. Et ce fragment originel peut être utilisé aussi bien comme un fragment lunaire que comme un fragment solaire.
D'accord, c'est un fragment joker finalement.
Oui, c'est un joker. Et à chaque fois que les joueurs vont récolter ce fragment, ils vont, il y a un petit plateau, ils vont plonger, j'appelle ça plonger, on verra plus tard, du côté des titans. Il y a des cases où on va atteindre différents niveaux. Et à partir du moment où on est dans certaines zones, certains niveaux, on va avoir des bonus supplémentaires. Du côté des titans, on les aura à l'achat des cartes. On va gagner des points de victoire supplémentaires suivant les cartes que l'on achète. A l'inverse, on a aussi une nouvelle phase de dés qui nous donne de la loyauté. Lorsque je récupère cette loyauté, je vais progresser du côté des dieux. Et dans ce cas-là, je gagnerai les bonus qui seront dans ces zones-là seront plutôt par rapport à la récolte d'or. D'accord. Et de points de victoire.
Okay.
Plus je progresse dans un des deux camps, plus effectivement les avantages sont impressionnants. Et à la fin, je vais spoiler malheureusement, mais les dieux gagnent. Donc du coup, eh bien, les points de victoire du côté des dieux, suivant la zone où on se trouve, du côté des dieux, on va marquer des points de victoire, alors D'accord. que du côté des titans, on va les perdre.
D'accord.
Donc du coup, les joueurs vont chercher à soit jouer à fond le côté titan et la flexibilité que la ressource l'offre, soit jouer la sûreté et jouer du côté dieu, soit alors tourner sa veste.
Est-ce qu'on sait dès le départ que les dieux gagnent ou pas?
Oui.
Tu dis que tu spoiles, mais
bah, c'est la
ça
mythologie.
Change. Oui, d'accord.
C'est la mythologie.
Bon. Je préfère quand même demander, on sait jamais, ou savoir où est-ce qu'on met les pieds. Quoi.
Mais par contre, les champions, eux, peuvent gagner même en étant du côté titan. Attention, je faisais une référence mythologique. Hein. Ça n'a rien à voir dans le jeu, bien sûr, les deux camps sont équilibrés.
Bien sûr.
Et donc du coup là les cartes, moi je trouve que par rapport au labyrinthe de la déesse, il y a un petit peu plus d'interaction. Puisqu'on a quand même pas mal de cartes, alors des cartes qui vont nous permettre de forger des faces chez l'autre joueur, et du coup à chaque fois qu'il aura cette face, on va récolter tous ses dés. D'autres où on va lancer notre dé si on fait un fragment originel ou si on fait de la loyauté. Alors tous les autres joueurs plongent du côté des titans, donc même ceux qui n'ont pas forcément joué cela, ben, ça va les freiner dans la stratégie, ou ceux qui ont joué les titans, ça va peut-être les emmener encore plus vite dans les profondeurs du Tartare. Okay. Donc voilà, une extension assez riche, deux modules d'intents compris dedans, tous différents et chacun ne pouvant être joué, devant être joué séparément. Et en plus, des cartes que là on peut moduler avec le jeu de base, etc. pour vraiment varier les stratégies. Plus d'interactions, une stratégie, un setup qui sera plus sur l'or, enfin plein de choses.
Et
plein
toujours, toujours un thermo très bien pensé ou tout rentre dedans.
Oui, effectivement. On peut remercier Thomas, notre graphiste spécialisé dans le 3D, la motion 3D, et du coup qui nous fait à chaque fois des thermos impeccables et qui sont vraiment reconnus aussi bien par la presse que par les joueurs. Encore un beau thermo.
Là, parce que avec les cartes slivées en plus.
En plus.
Pour une fois qu'on y pense. Faut
et
le dire.
La boîte de l'extension, on ne la jette pas, elle s'ajoute sur le plateau de jeu. Ça,
c'est pour ça que je dis ça. Il faut un peu plus de place sur la table, par contre.
Oui, on calcule rapidement, oui.
15-20 cm.
Pas très bien. Oui, je pense, on a fait le tour du coup sur l'extension, je pense.
Oui, oui.
Présenter aussi Wenki.
Oui.
C'est ça.
Donc on présente Wenki puisque ce jeu sortira en mai. Alors Wenki, pour commencer, c'est la première création de l'atelier. Alors l'atelier, qu'est-ce que
l'atelier, c'est l'atelier, c'est ça.
Kazako.
L'atelier.
C'est pas, il y a pas d'auteur, c'est ça.
Non, c'est un studio de game designer.
D'accord.
Issu de Libellude.
Ah.
Mais qui vise à être indépendant, puisqu'ils vont développer et créer. Leur but est de créer et développer des jeux qui seront bien sûr présentés souvent à Libellude, mais qui pourront aussi être présentés à d'autres éditeurs en fonction de leur spécificité.
C'est-à-dire que les mecs, ils vont tenter de designer des jeux. Si ça vous plaît pas, en gros, ils vont designer des jeux tout pourris pour les autres pour les planter dans le marché, c'est ça ?
Non, parce que je pense que les autres ne choisiront pas. Les autres éditeurs sont aussi très bons, hein, donc du coup, ils sauront aussi dire non si ça ne les intéresse
suffisamment,
pas.
Ils vont faire croire qu'il est bien, tu vois, mais en fait, ils savent qu'il n'est pas bien, et comme ça va planter les concurrents.
On a l'air aussi machiavélique que ça.
C'est louche, c'est espèces de petites libellules et tout. On se dit, ça cache quelque chose. Ah, vas-y, explique-nous.
Donc en fait ils vont alors ils pourront aussi bien répondre à des commandes, mais la plupart du temps en fait ils vont développer des jeux qui selon leur envie, leur création, et effectivement nous on va garder un œil sur les jeux qui pourraient correspondre à nos demandes, à notre intérêt, et ainsi eh bien on les prend, dans ce cas-là on les prendra nous du côté auditorial pour les sortir, et sinon ceux qui ne correspondent pas, eh ben, ils
vous
seront...
les proposerez du coup à d'autres
tout
éditeurs.
À fait alors, pas nous.
Oui, enfin, l'atelier,
si
oui, d'accord.
Eux considèrent qu'il est bon, mais c'est simplement qu'il ne correspond pas à nous en tant qu'éditeur, et bien ils le proposeront à des éditeurs qui sont plus aptes de faire de ce jeu une réussite.
Ouais, ok, d'accord.
Donc voilà, donc, c'est la petite introduction sur l'atelier. Et donc Wenki est la première création de l'atelier, et la première création du coup qui sort chez Libellude.
Tu peux nous en dire deux petits mots, le pitch vite fait sur le jeu.
Donc dans Wenki, nous sommes sur un coopératif asymétrique, puisqu'il y aura un joueur qui sera le meneur et les autres joueurs sont des voyageurs. Okay. En fait, on va commencer la partie, il est très simple à comprendre et surtout très rapide à mettre en place. On a un tas de cartes, 84, ce n'est pas un hasard, comme chez Libellude c'est tout le temps le cas. Et donc du coup, on va piocher 11 cartes derrière des petits numéros. Une de ces cartes, le meneur va la choisir comme étant la clé. On va l'appeler comme ça, c'est la clé. C'est la clé de sortie, c'est celle pour gagner. On place ces 11 cartes devant tout le monde. Ça représente des scènes différentes. On va avoir une sorte d'éponge qui ressemble un peu à un jardin. On a un jardinier dessus et avec une tête de citrouille, par exemple, et un arrosoir dessus. On peut avoir un piège de souris.
Des choses un petit peu oniriques, un petit peu loufoques.
Ouais. Illustration de Naïade. Et le meneur va donner chaque tour, des indices pour faire comprendre aux joueurs quelle est la clé.
Il les aide en fait, le meneur est avec. D'accord.
Les meneurs sont avec, c'est un coopératif. C'est complet,
ouais. Okay.
Les autres joueurs, eux, chaque tour, vont devoir éliminer des cartes. Au premier tour, ils doivent en éliminer une, puis deux, puis trois, et enfin quatre. Et dans ce cas-là, il n'en restera plus que la clé à la fin.
D'accord.
Donc on gagne si à la fin, il ne reste que la clé, la carte qui représentait la clé. Pour les aider, le meneur, en fait, il va piocher d'autres cartes. Et il va évaluer cette carte, la comparer avec la clé qu'il voit, vérifier aussi les autres cartes à côté, ça aide bien. et il va donner une couleur d'indice à cette carte. S'il décide que c'est un indice vert, dans ce cas-là, ça veut dire que cette carte aura un lien très fort avec la clé.
Oui.
Si au contraire, il donne une couleur d'indice rouge, ça veut dire que cette carte n'a rien à voir avec la clé.
Okay.
Et il y a une possibilité qui est jaune, dans ce cas-là, c'est-à-dire que cette carte a un lien avec la clé, mais il n'est pas évident, il est assez subtil.
Un lien capillotracté.
C'est ça.
Capillotracté, pas trop, sinon ça serait plutôt rouge.
Ouais, c'est ça.
Et donc du coup, les joueurs, en fonction de ces indices, vont petit à petit, par déduction, éliminer des cartes.
Mm-hmm.
Là, par exemple, j'ai mis une citrouille avec une éponge verte. J'avais dit que, imaginons que c'était la clé. Moi, je donne un exemple où il y a... je vais bien trouver. Il y a une sorte de jardin zen, par exemple.
Ouais.
Un jardin zen avec une statue d'un Bouddha. Eh bien, moi, je vais décider que cet indice, peut-être, je vais peut-être plutôt le mettre comme un indice vert pour faire comprendre que ma clé, elle a peut-être un rapport avec cette couleur verte, cette eau, ce jardin. Et du coup, les joueurs vont se dire... tiens, là on a une éponge avec une citrouille, on va peut-être la mettre de côté. Ouais. Par contre, là,
mais
qu'est-ce qu'on a?
Il y a quand même une citrouille dessus.
voilà, il y a quand même une citrouille dessus. Mais après, une autre carte où on aura un truc qui n'a rien à voir, on se dit ce tour-là, on est d'accord. Alors là, il nous aurait quand même pas mis en vert. On a des flammes et on a un réveil.
Ouais.
C'est quoi le rapport? Allez, hop, on supprime celle-ci. Mmh. Et ça va être comme ça chaque tour. À chaque fois, on a 3 minutes. Chaque manche, on a 3 minutes.
D'accord.
Le meneur pour préparer ses prochains indices. Et les autres joueurs pour éliminer les cartes. On met plus de 3 minutes, on a perdu la partie.
D'accord.
Et si on émet de la clé en cours de tour route, on a perdu. Mmh. Ça dure 20 minutes. On a une application qui peut être téléchargée gratuitement pour chronométrer, sauf qu'on ne va pas afficher un simple chrono. C'est simplement, ce sera une musique de la musique classique qui est jouée et qui, bien sûr, sera au début tout doucement. Et plus on se rapproche des 3 minutes, va augmenter.
Okay.
Donc ça nous permet de prendre, mais surtout, ça va nous stresser.
Ça met un peu la pression.
Met un peu la pression, un petit peu.
D'accord, ok.
Pourquoi
avoir choisi de minuter, en fait?
Parce que il faut garder un certain rythme et un certain stress. Là, le but de cette expérience-là, c'est d'être... il faut qu'on soit autour et qu'il y ait un côté un peu un stress, un enjeu.
Ouais.
Puisque chaque fin de manche, en fait, on a l'enjeu de savoir est-ce qu'on a supprimé ou pas la clé. Donc il faut que cette pression et cette atmosphère...
C'est ajouter vraiment une dimension intéressante dans le jeu.
Oui. Donc un jeu très rapide. Moi, quand je l'explique, en fait, on joue en même temps. Si le meneur, en plus, maîtrise un peu, alors là, c'est direct, on joue directement. Il n'y a pas besoin de s'embêter à expliquer des règles. Et la mise en place, on pioche, on se carte et on commence la partie.
Et donc sorti quand, à quel prix?
En mai, ça sera, c'est un format de boîte à Dixit, donc du coup à 30 euros.
Ok.
Ok, d'accord, très bien. Et vous avez un dernier jour en démo, il me semble, à Cannes?
Oui, effectivement, sur la Protozone, on montre Obscurio, qui sera notre sortie en septembre.
D'accord.
Et si on veut dire juste 2-3 mots, sachez que vous êtes un groupe d'aventuriers, que vous êtes perdu dans une bibliothèque labyrinthe, vous avez récupéré un grimoire et que ce grimoire va vous aider à trouver la sortie en vous indiquant à l'aide d'images, en vous pointant des éléments. Et donc vous allez pouvoir tous ensemble discuter pour essayer de trouver la bonne porte. Mais sachez que parmi l'un d'entre vous se cache un traître.
Ouais. Moi j'ai lu ça, j'avais envie de l'essayer du coup.
Les graphismes faits par Xavier Collette et les illustrations par le studio M81. Et on a de très bons retours sur la qualité visuelle du jeu, aussi sur le jeu lui-même.
On va
en reparler.
On n'en dit pas trop sur la qualité visuelle. Ok, très bien. Merci beaucoup Maximilien pour ce temps que tu nous as consacré et toutes ces informations.
Oui, merci.
Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.